With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les couilles sur la table, épisode 33. Dans cet épisode, nous plongeons dans notre passé profond. En 30 minutes, nous allons parcourir une période courant sur plusieurs millions d'années. Nous allons nous demander qui étaient les hommes préhistoriques, ceux qui ont vécu au paléolithique, au mésolithique, au néolithique, c'est-à-dire entre 7 millions et 3000 années avant notre ère. Qui étaient ces fameux hommes préhistoriques? Attention, je dis les hommes, pas les humains. À quoi ressemblaient-ils? Que pouvons-nous savoir des tâches domestiques, artistiques auxquelles ils se livraient? Étaient-ils très différents de ceux des femmes? Est-ce que ces sociétés connaissaient aussi la domination masculine? Pour cet épisode préhistorique, j'ai la chance de recevoir une philosophe et grande spécialiste de l'histoire de la paléontologie. Bonjour Claudine Cohen.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheur. Alors vous m'avez demandé de dire chercheur, hein. Vous ne voulez pas dire chercheuse. Mm-hmm. D'accord. Donc vous êtes enseignante-chercheur, directrice d'études titulaire de la chaire Biologie et Société à l'École pratique des hautes études et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez signé de nombreux ouvrages sur la paléontologie, la préhistoire, l'évolution humaine et la représentation de l'art préhistorique. J'en ai lu un. Femmes de la préhistoire, publiée aux éditions Belin en 2016, mais dans cet épisode, on va parler des hommes, au sens de sexe masculin. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Chers auditeurices, si vous êtes comme moi à peu près ignorant de toute science préhistorique, pour commencer, je vais vous demander de fermer les yeux et de visualiser l'homme préhistorique. Un homme préhistorique. Pour vous, à quoi est-ce qu'il ressemble? Pour moi, je le vois armé d'un gourdin. Il chasse le mammouth, il se bat contre les tigres à dents de sabre, il est bestial, il est poilu, et quand ça lui prend, il traîne les femmes par les cheveux pour copuler sauvagement au fond des cavernes. Bref, c'est une certaine caricature de la virilité, et ces représentations, je les ai attrapées au cinéma avec des films comme La Guerre du Feu, dans des romans comme Les Enfants de la Terre de J.M. Howell, dans des BD comme Rahan et des publicités. Et vous, Claudine Cohen, si je vous demande de visualiser un homme préhistorique, quelle image apparaît dans votre esprit ?
Mais je crois qu'avant même ces films, il y a des images qui illustraient les livres de grande vulgarisation à la fin du 19e siècle. Et il me semble que ces images ont vraiment forgé notre vision de l'homme et de la femme préhistorique. Et elles ont été bien sûr reprises dans les films, dans les romans, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de permanence d'une vision qui, à l'époque, était une vision complètement fantasmatique et imaginaire, parce qu'on connaissait vraiment peu de choses à la fin du 19e siècle. Et qui s'est tout de même perpétuée dans les iconographies scientifiques, vulgarisées, etc., sans beaucoup de critiques. Et donc, ces images, elles, à mon avis, elles résultaient beaucoup d'une certaine vision sociale à l'époque de la fin du 19e siècle, ce qu'on appelle l'époque victorienne, hein, des relations entre les hommes et les femmes. Il y avait les hommes qui avaient le pouvoir, qui exerçaient un ascendant réel sur les femmes, sur les enfants. Et puis, il y avait les femmes qui étaient inférieures, même officiellement inférieures. Juridiquement, elles avaient peu de droits. Elles étaient toujours sous la dépendance et la coupe des hommes, un père, un mari, etc. Et donc, c'est un peu en calquant ce modèle-là que se sont manifestées ces représentations.
Voilà. Mais vous, maintenant que vous, parce que vous, vous connaissez, vous êtes allé au-delà de ces représentations, oui, de ces clichés, etc. Mm-hmm. Vous, quand je vous dis, pensez à un homme préhistorique, qu'est-ce que vous voyez, à quoi il ressemble pour
Alors,
vous ?
Alors, je pense que, d'abord, il n'y a pas un homme préhistorique. Il y a 7 millions d'années, il y avait des espèces qui entrent dans le cadre de la famille humaine, mais qui sont quand même très très différentes de nous. Et puis il y a les australopithèques, comme Lucie. Et puis après, il y a l'ascendance du genre homo. Alors il y a homo habilis, homo erectus, etc. Ce sont des formes qui ne nous ressemblent pas tellement. Hein, qui avaient un petit cerveau, qui étaient probablement plus petits, plus râblés, etc. que nous le sommes. Et puis ensuite, il y a les néandertaliens. Et l'avènement d'homo sapiens, c'est beaucoup plus tard. Hein, alors aujourd'hui, on sait que c'est à peu près 300 000 avant le présent, mais en Europe, c'est 50 000 avant le présent. Donc, toute cette diversité ne permet pas de définir un homme, hein, qui serait... Alors, si on le faisait, ce serait forcément une caricature. Ce qu'on peut dire quand même, et ça, beaucoup d'anthropologues l'ont dit, et je crois avec raison, c'est que la domination masculine est certainement quelque chose d'assez permanent dans l'histoire de l'humanité. Alors, cette domination masculine ne signifie pas que ce sont des individus sempiternellement brutaux, arrachant les femmes par les cheveux, les violant, etc., se livrant à des chasses énormes. Je pense qu'il faut un peu déconstruire toute cette mythologie-là.
Eh bien, c'est exactement ce que je vous propose de faire. Oui. Pendant cette petite demi-heure, on va prendre un à un ces clichés et on va voir dans quelle mesure ils sont réels ou non. Par rapport à ce que vous venez de dire sur cette très très longue période de la préhistoire, j'ai fait un peu des calculs et comme j'aime bien avoir le vertige, je vais le partager avec vous, chers auditeurs. Vous voyez la période entre Jésus-Christ et nous, vous représentez ces 2000 ans d'histoire, mais en fait si vous multipliez ça par 1500, ça donne cette période de 3 millions d'années dont on parlait. Ça veut dire qu'entre nous maintenant qui parlons et notre très lointain ancêtre il y a 3 millions d'années, il a fallu 150 000 générations. Voilà. Entre nous et Jésus-Christ, c'est 100 générations.
Oui.
C'est vraiment une période immense, en fait. On dit aussi que le paléolithique, c'est 98% de la vie de l'humanité. C'est vraiment une période immense. On va laisser de côté la période du paléolithique inférieur, parce que je crois qu'on n'en sait pas grand-chose. Et donc, on va se concentrer sur les 300 000 ans du paléolithique moyen et supérieur, et c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Donc ça, c'est l'époque de l'homme de Cro-Magnon et l'époque de l'homme de Néandertal aussi, même s'il va finir par disparaître. On est encore sur la question de représentation. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi ils ressemblaient, ces hommes du paléolithique. Est-ce qu'ils étaient très différents des femmes? Est-ce qu'ils étaient plus grands, plus musclés? Est-ce qu'ils étaient à peu près équivalents? Qu'est-ce qu'on sait d'eux?
Alors, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, cette imagerie dont on parlait nous montre des hommes très... beaucoup plus grands, plus forts, plus poilus que les femmes. Et c'est vrai que Darwin, d'ailleurs, a fait beaucoup pour ça, parce qu'il a expliqué que par la sélection sexuelle, se sont établis des traits différentiels entre les hommes et les femmes. Les hommes ont sélectionné chez les femmes la beauté, l'absence de pilosité, alors que les femmes ont sélectionné certains traits comme le port de la moustache, de la barbe, une certaine force musculaire, etc.
Ça, c'est ce que Darwin disait.
C'est ce que Darwin raconte dans la fameuse Descendance de l'homme. Alors, c'est peut-être vrai au premier temps de l'humanité, mais il semble que aux époques dont vous parlez, donc au paléolithique moyen et supérieur, c'est-à-dire chez les Néandertaliens et chez les Homo sapiens, eh bien, ce dimorphisme sexuel, c'est-à-dire cette différence de morphologie entre les hommes et les femmes, était certainement plus modéré qu'on peut l'imaginer. Par exemple, entre les Néandertaliens et les Néandertaliennes, bon, il y avait peut-être une petite différence de taille, mais encore qu'elle, selon les régions, elle se module assez différemment. Et la force était partagée par les deux. Ils avaient une vie quand même très, très rude, ces Néandertaliens. Et les femmes, comme les autres, étaient relativement costauds. Même très costauds par rapport à ce que nous sommes. Quant au paléolithique supérieur, eh bien, si on regarde de près, on s'aperçoit que cette histoire de dimorphisme n'est peut-être pas aussi accentuée que ce qu'on a bien voulu le dire. D'ailleurs, ça a joué des tours aux préhistoriens et aux archéologues et aux paléontologues. Parfois, on a trouvé, par exemple, au Gravettien, qui est une des périodes les plus anciennes du paléolithique supérieur en Europe, il y a à peu près 27 000 ans, hein, on a trouvé en Italie des sépultures de personnages bien costauds, ornés de perles, d'offrandes et tout ça. On a dit, c'est des chefs. Voilà. Et donc, on a identifié ces sépultures comme des sépultures honorifiques pour des chefs.
Masculins.
Bien sûr, des chefs masculins. Et puis, un jour, on a trouvé une de ces sépultures. Elles étaient toutes un peu pareilles, disposées de la même façon, avec le même genre d'offrandes, etc. Et il y avait, à l'intérieur même du bassin, il y avait un bébé encore en gestation. Donc, c'était évident que c'était une femme. Et là-dessus, on a dû relire toutes ces sépultures, parce qu'on a quand même les moyens de différencier par le bassin, par certains traits anatomiques des hommes et des femmes. Bon, on avait regardé ça assez vite. On était persuadés par la corpulence et par les offrandes que c'était des hommes. On s'est aperçu que c'était des femmes. Donc, on a dû relire tout ça. Il y a par exemple un fossile qu'on appelait l'homme de Menton, qui a été trouvé au 19e siècle, la fin du 19e siècle, donc près de Menton. Là. Et maintenant, si vous allez au Musée de l'Homme, c'est la dame du Cavillon. Hein, c'est une dame. Mmh. Et donc, ce genre de découverte nous persuade que, au fond, en tout cas à cette époque du Gravettien, les hommes et les femmes n'avaient pas une telle différence de corpulence, de robustesse, que l'on puisse tellement les différencier.
Alors, c'est très intéressant. Pardon, je vous coupe, mais on parle de sapiens, on est d'accord. Pas seulement de Néandertal.
Absolument.
Parce que c'est vrai que Néandertal, on n'a que 1% de notre génome. C'est ça qui descend
oui,
de Néandertal.
Donc, entre 1 et 5%, enfin bon. Mais c'est intéressant aussi de considérer les civilisations néandertaliennes et la manière dont elles vivaient. Et d'ailleurs, on sait très bien que les Néandertaliens, comme les sapiens, avaient déjà des règles de parenté. C'est-à-dire que leur comportement, c'était pas je trouve une bonne femme, je l'arrache par les cheveux, je la viole, et puis voilà. C'est comme ça que les enfants sont faits. Pas du tout. Toute société humaine élabore un certain nombre d'interdits. Donc des interdits, évidemment, de l'inceste, hein, c'est-à-dire des règles de parenté. On ne se marie pas avec qui on veut, on ne copule pas avec qui on veut, il y a des interdits sexuels, etc. Et il est fort à parier que dans la préhistoire, ces règles existent déjà. Et donc, on ne faisait pas n'importe quoi. Je ne pense pas que les préhistoriques doivent être considérés comme des sauvages absolus qui se livraient à toutes sortes de comportements violents et répréhensibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de domination masculine, mais je crois quand même que les comportements, et en particulier les comportements sexuels, les relations entre hommes et femmes, étaient déjà réglés.
Un cliché que j'ai évoqué, c'est celui du chasseur de mammouths. L'homme qui chassait les mammouths, oui. Tandis que la femme attendait oui. à la caverne avec des oui. petits pendus à ses mamelles et qu'elle attendait que le chasseur de mammouths revienne pour la nourrir. Bon, l'une des questions des paléontologues, si je vous ai bien lu, si j'ai bien compris, c'est de savoir comment les humains sont devenus humains. Et pour y répondre, ils ont inventé des modèles explicatifs. Et l'un de ces modèles d'hominisation, c'est la chasse. On a dit, voilà, donc là je vous cite, hein, c'est vous qui l'écrivez dans votre livre « Femmes de la préhistoire ». La chasse, c'est un modèle d'hominisation parce que ça permet la fabrication des outils, ça induit une répartition des tâches entre les chasseurs, ça développe la ruse, l'altruisme, l'endurance à la course. Ça révèle des qualités sociales, physiques, intellectuelles. Et c'est un modèle qui fonctionne bien, quoi, pour expliquer comment les humains sont devenus des humains.
Comment les hommes sont devenus des humains.
Comment les hommes sont devenus des humains.
Parce que c'est un modèle qui était androcentré, ce modèle de la chasse.
Exactement. Mais sauf que, voilà, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, ce modèle a été remis en question parce qu'il est androcentré, parce oui. qu'on ne considérait que les hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, nous
oui,
raconter
oui.
ça ?
Alors, ça, ce modèle, il existe depuis très longtemps. On le trouve chez Darwin, on le trouve dans les années 50, d'ailleurs avec plein de bons sentiments. Hein. On ne voulait pas être raciste, on voulait expliquer comment l'humanité s'était forgée à travers des comportements culturels, etc. Et on dit, voilà, la chasse, ça explique tout. Et la chasse, c'est évidemment l'homme, hein, vire, le mâle, qui développe toutes ses qualités extraordinaires et grâce auxquelles il va subvenir aux besoins de sa pauvre épouse éplorée au fond de la caverne
ouais.
qui va échanger ses faveurs sexuelles contre les protéines, contre la viande. Et c'était un modèle qui semblait marcher très bien dans les années 50 aux États-Unis, c'est ça qu'on enseignait. Et là-dessus, comme il a commencé à y avoir des femmes anthropologues à ce moment-là dans ces universités américaines, et des femmes assez féministes, hein, et qui sont devenues des féministes assez radicales, elles ont dit, mais enfin, quand même, c'est pas possible d'imaginer un modèle d'hominisation de ce genre. Les femmes n'ont-elles donc pas contribué du tout au processus même de devenir humain? Et donc, elles ont un peu renversé cette espèce de modèle en disant qu'après tout, si on regarde les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs, bon, qui ne sont pas des sociétés préhistoriques, évidemment, mais qui sont des sociétés qui ont le même mode de fonctionnement et de vie, c'est-à-dire un mode de vie nomade, une économie de prédation, on va chercher dans la nature de quoi se sustenter, eh bien, on se rend compte que les femmes contribuent énormément à la subsistance du groupe. Elles ne sont pas terrées au fond d'une caverne. D'ailleurs, on n'habitait pas dans les cavernes du tout à l'époque paléolithique, ni non plus chez les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui. Mais elles participaient à toutes sortes d'activités donc, qui permettaient la subsistance du groupe, en particulier la cueillette. Le ramassage d'un tas de trucs, les œufs, les animaux qui étaient pris au piège. Elle participe à la chasse même, hein, comme rabatteuse, comme celle qui ramasse donc les animaux morts, etc., qui les ramène. Elle porte énormément, hein, c'est elle qui porte toutes les charges du groupe. Donc il y a vraiment des activités extrêmement variées, extrêmement utile au groupe et à la subsistance du groupe, et sans doute même plus que la chasse aux grands mammifères. Hein.
Parce qu'on imagine toujours que c'est une chasse aux mammouths,
D'abord
aux bisons,
des mammouths, il y avait effectivement certaines populations, en particulier en Russie, pour qui le mammouth était vraiment l'animal qui servait à tout, hein, parce qu'il n'y avait même pas d'arbres, même pour se chauffer, même pour construire les maisons, donc on avait les os de mammouth, les défenses de mammouth, etc., la chair du mammouth qu'on gardait dans des espèces de frigidaires naturels dans le permafrost, etc. Il n'est pas sûr que ces mammouths aient été chassés avec des armes. Il se peut qu'ils étaient pris au piège, à des pièges. Il se peut que ce soit des mammouths qui sont morts accidentellement. Enfin, il y a toutes sortes de paramètres qui rendent un peu ridicule l'idée d'une chasse aux mammouths comme on a pu
cela représenter.
Oui.
Donc pour en revenir au masculin, ça veut dire que l'homme préhistorique, la masculinité préhistorique, c'est pas une masculinité de chasse dominante.
Si, c'était possible, possiblement une activité de chasse.
Mais en tout cas, c'est pas elle qui subvenait à l'essentiel.
Qui n'est pas la seule activité qui subvenait aux besoins du groupe.
Il y a un passage de votre livre où vous expliquez aussi que les femmes ont certainement inventé les gestes et les outils pour la cueillette, pour porter les enfants, etc. Et vous dites aussi que ce sont elles qui furent certainement les initiatrices des comportements de partage des ressources au sein du groupe, et donc qu'elles auraient valorisé une masculinité sociable, celle d'hommes désireux de les aider dans les tâches familiales, à élever les enfants et à partager les nourritures. Bon, alors ça, c'est un modèle qui est complètement différent du modèle auquel on se réfère en général, c'est-à-dire les femmes ont choisi les hommes les plus forts, ceux qui arrivaient le mieux à chasser le mammouth. Et vous, si je comprends bien, vous dites y a un autre modèle qui dit les femmes ont en réalité choisi les hommes qui étaient le mieux capables de socialiser, de participer à la collecte et à l'éducation, à l'élevage des enfants.
Alors ça, c'est un modèle qui a été élaboré par ces dames anthropologues dont je parlais, hein, dans les années 70, et qui étaient des féministes radicales, hein, qui ont dit, après tout, on nous dit que la chasse a initié les comportements de partage, et c'est les hommes qui l'ont fait. On peut aussi dire que la cueillette, le fait d'éduquer les enfants, etc., a été aussi déterminant dans cet avènement des comportements de partage. Alors, c'est modèle contre modèle. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de preuves de ce genre d'activité. On peut faire des hypothèses, et on peut contrebalancer les hypothèses ultra-machistes par des hypothèses qui tentent de donner une place aux femmes. Et pourquoi les femmes n'auraient-elles pas eu une place dans ces sociétés? Elles ne pouvaient pas être seulement passives. Comment une société qui a besoin de survivre autant qu'en avait besoin ces sociétés de nomades paléolithiques pouvait-elle entretenir des gens à ne rien faire, à rester passif.
Oui, ça paraît inimaginable.
Ça paraît inimaginable et c'est pas du tout conforme à ce que nous connaissons aujourd'hui des sociétés de chasseurs-cueilleurs.
Oui, vous dites que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, il y a un tiers.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, la chasse aux gros animaux, ça représente seulement un tiers de l'apport alimentaire.
De la subsistance, oui. Donc, elle existe, hein, la grande chasse existe. Et encore une fois, les femmes n'en sont pas forcément exclues. Mais ces protéines-là, ne sont pas les seules. Il y a aussi tout ce que ramassent les femmes, les œufs, les petits animaux, les plantes. Tout ce travail, donc, aussi des épices, toute cette pharmacopée. qui pouvaient être utilisés. Et ça, qui fait vraiment partie du domaine féminin dans la plupart des sociétés. Alors, quand on parle des sorciers, quand on parle des chamans, etc., il y avait aussi très probablement, comme il y a encore aujourd'hui dans les sociétés où il y a des sorciers, des chamans, il y avait des femmes qui savaient, qui possédaient ce pouvoir de la médecine, de la pharmacopée, parce qu'elles connaissaient les plantes, elles connaissaient les onguents, elles savaient utiliser tout cela.
Ok, donc là, on commence déjà à avoir une autre image de cet homme préhistorique qui vivait au Paléolithique.
C'est une image qui se dessine un petit peu en creux, hein, c'est-à-dire que avant, c'était toute activité productrice et créatrice était dévolue aux hommes. Hein, on avait ce modèle, et quand on lit des choses, même de gens très éclairés du début du XXe siècle, c'était clair que voilà, c'était ça la réalité. Et aujourd'hui, on commence justement à limiter un peu cette partie masculine dans ses activités, dans ses apports, hein, pour dire qu'il avait peut-être même dans ces sociétés du Paléolithique supérieur, dans certaines d'entre elles à tout le moins, une certaine égalité entre les hommes et les femmes. En tout cas, au niveau de la distribution des activités et au niveau du partage des ressources.
Est-ce qu'on sait quelque chose de la sexualité des hommes préhistoriques ?
Oui, bien sûr, on sait des choses, on a des hypothèses.
Je reviens à la déconstruction, ou en tout cas au réexamen de cette image de l'homme de Cro-Magnon, violeur à gourdin.
Alors, la sexualité, je pense que Georges Bataille a fait une différence très intéressante entre la sexualité et l'érotisme. Et il explique que le propre de la sexualité humaine, c'est précisément le plaisir. C'est le fait qu'elle n'est pas forcément orientée vers la reproduction. Et c'est le fait, c'est une sexualité qui n'est pas seulement soumise à l'instinct. Et on sait qu'une des caractéristiques de la sexualité proprement humaine, c'est de n'être pas soumise à ces périodes de rute qui anime la sexualité des animaux, enfin des grands mammifères et des grands primates. Donc, chez l'humain, probablement pour des raisons de bipédie et de cacher les organes sexuels sous le corps, eh bien, il n'y a plus la tuméfaction de la vulve, il n'y a plus les odeurs qui attirent les mâles, etc. Et de ce fait, la sexualité est devenue possible tout le temps, de façon permanente. Et l'érotisme, c'est créé justement en mettant l'accent non plus sur les parties sexuelles, génitales, hein, sur la génitalité, mais sur d'autres lieux du corps. Hein, les seins, les fesses, le corps entier sont érotiques, y compris même la voix, certains aspects plus intellectuels, etc., qui font que notre sexualité, elle est soumise à, non pas à l'instinct, mais à l'imaginaire, au symbolique, et elle rend possible des sentiments comme l'amour, la tendresse, enfin toutes sortes de choses qui nous caractérisent. Hein. Et je pense que tout cela existe déjà dans la préhistoire. Hein. Du fait que très probablement très tôt dans l'histoire humaine, même beaucoup plus tôt que ces périodes dont nous parlons, la sexualité humaine est devenue permanente et s'est centrée autour en particulier de l'enfant, parce qu'on sait que l'enfant humain naît inachevé, donc il a besoin d'une famille, et la famille est l'espace propre de l'humain. Hein. La famille élargie, pas seulement le triangle familial, mais les sœurs, les frères.
C'est très récent, évidemment.
C'est quelque chose d'évidemment très récent.
La famille nucléaire.
Bien sûr. Et donc, on a cet espace très large de la famille qui s'étend jusqu'aux ascendants plus anciens, les grands-mères, etc. Voilà, donc je pense que cette sexualité humaine qui... Alors, parler d'érotisme, évidemment, ça ouvre toutes les possibilités de la sexualité.
Donc l'homme préhistorique, même au Paléolithique, n'était sans doute pas le rustre qu'on se représente.
Je pense pas du tout que les hommes du Paléolithique étaient des rustres.
On va faire un bond dans le temps, là. On arrive au Néolithique, donc on a sauté plusieurs centaines de milliers d'années. Et là, on arrive au moment où les humains commencent à se sédentariser et à faire de l'agriculture et de l'élevage. Donc on est entre il y a 8000 et 5000 ans. selon les aires géographiques.
Ça commence même avant, ça commence même autour de 11 000. On a des traces de sédentarisation dans certains lieux autour de 20 000 avant le présent.
Sites. J'ai pas lu les bonnes sources.
C'est rare, mais je veux dire que la néolithisation, c'est un processus, c'est pas une coupure.
En tout cas, c'est un énorme changement, et donc ça a forcément des conséquences sur les relations entre les hommes et les femmes et la masculinité. Alors, bon, essayons, dans le temps qui nous reste, de définir ou d'imaginer les contours de ce que serait une masculinité néolithique. Qu'est-ce que nous apprennent, par exemple, les tombes du néolithique sur les différences de sexe?
Alors, avant de parler des tombes, moi, j'aurais parlé du mode de vie.
D'accord. Hein,
parce que il s'agit d'un mode de vie qui est sédentaire, qui est centré sur l'agriculture, sur l'élevage, et donc où il n'y a plus, d'abord ce sont des groupes beaucoup plus grands, qui s'installent dans des villes ou dans des, enfin, des débuts, des embryons de cités, où les femmes travaillent, mais elles sont beaucoup plus soumises à la génération des enfants. Hein. Il faut des enfants pour travailler la terre. Donc, il n'y a plus ce contrôle des naissances qu'il pouvait y avoir par exemple la ménorrhée de lactation chez les femmes du paléolithique. Elles pouvaient contrôler en allaitant les enfants et avoir un enfant tous les 4 ans, par exemple. Elles ne pouvaient pas se balader avec un petit bébé, 18 petits bébés dans les bras, comme ça. Donc, enfin, avec 3 ou 4 bébés dans les bras. Et donc, au néolithique, on voit que les enfants naissent, les femmes sont chargées de cette éducation, sont beaucoup plus sédentaires. Et là, à mon sens, hein, bon, on peut en discuter, mais il me semble que c'est là que la domination masculine s'accentue. Hein, et que on trouve une aliénation peut-être plus prononcée des femmes.
Donc une domination plus grande des hommes sur les femmes.
Oui, c'est vrai que au néolithique, aussi, non seulement probablement la domination masculine dans la famille s'accentue, mais la violence s'accentue aussi.
Ça, on a des traces de ça. Hein.
On a des traces de... Bon, au paléolithique, on en a très peu, des traces de violence. Hein. On a un ou deux squelettes où il y a une flèche ou quelque chose comme ça, ou qui semble avoir été l'objet d'un coup. Encore, on ne sait pas d'où vient ce coup. Mais au néolithique, on a vraiment des carnages. On a vraiment des scènes de grande violence et de guerre. Hein. Et donc, la propriété est probablement un des concepts qui engendre ce genre de comportement. Et on voit que souvent les femmes et les enfants étaient victimes encore plus de ce genre de comportement. Et donc, il semble que la domination patriarcale, masculine, se soit beaucoup accentuée pendant ces périodes-là. Moi, j'aime à penser, bon, on peut encore une fois en discuter, ça peut être contesté, mais que la période du paléolithique supérieur était une période beaucoup plus favorable à une égalité entre les sexes que celle qui est advenue par la suite et qui se perpétue pratiquement jusqu'à nos jours, jusqu'avant les révoltes féministes, etc.
Je pense que le néolithique... Encore une fois, c'est une toute petite période, hein, le néolithique est notre période par rapport à l'immense période du paléolithique.
Oui, mais c'est une période qui commence il y a quoi, 10 000 ans et qui vraiment constitue les cadres de la manière dont nous avons vécu jusqu'à la fin du 19e siècle. Hein. L'économie agricole, les cités, enfin, tout cela s'installe déjà à ce moment-là. Et je pense que la domination masculine telle qu'on peut encore la repérer dans certaines cultures aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient de loin.
Dans la nôtre aussi, hein, la domination masculine, on peut encore...
Aujourd'hui, la domination masculine, maintenant, commence à être un petit peu revue. Par
c'est
un
vrai.
Certain nombre de luttes,
tout à
en
fait.
Particulier le contrôle des naissances, enfin toutes ces choses ont peut-être joué un rôle très important dans ces débuts de basculement.
Je vous ai demandé à quoi ressemblaient les hommes du paléolithique, je vous pose la même question pour les hommes du néolithique, je crois avoir compris qu'ils devenaient plus grands que les femmes, pourquoi ?
Alors, il semble qu'au début du néolithique, il y a un décroissement des deux sexes, parce que les conditions d'alimentation... curieusement, ne sont pas aussi favorables que celles du paléolithique, hein, de manger des bouillies de céréales, des choses comme ça. Enfin, et puis s'il y a des pénuries, s'il n'y a pas une bonne récolte, etc. Donc il y avait plus facilement des disettes et des carences qu'au paléolithique. Et donc je pense que dans les premières cultures du néolithique, on assiste à une sorte de rapetissement, hein, de décroissance de la taille. Cela dit, c'est vrai qu'à certaines périodes, dans certains cadre. Encore une fois, il faut penser tout ça dans la diversité, parce que le néolithique, c'est vraiment... c'est plus des nomades qui parcourent des grands territoires, ce sont des populations qui s'installent, et donc il y a effectivement une diffusion, mais une diffusion lente, et qui se passe dans des lieux à des périodes données, mais on a des cultures différentes au néolithique. Et donc, il y a effectivement certaines cultures où on voit un dimorphisme sexuel qui s'accentue. Alors, il y a des thèses qui ont été avancées selon lesquelles le dimorphisme sexuel serait lié à des mauvais traitements infligés par les hommes aux femmes, le fait des carences de nourriture qui les auraient donc rendus plus fragiles et qui auraient perpétué encore une fois chez les femmes cette fragilité, et aussi un choix de femmes plus graciles, plus fragiles, selon des critères à la fois esthétiques mais aussi de domination. Et c'est vrai que probablement dans ces époques néolithiques on commence à assister à ce genre de dimorphisme, mais on assiste aussi parfois à l'existence de femmes qui ont un pouvoir. On trouve certaines régions, certaines périodes, à la fin de l'âge des métaux, à l'âge du fer par exemple, où on sait que les femmes ont eu un pouvoir. À l'âge du bronze aussi, on trouve des traces, à la fois dans la statuaire, mais aussi dans les tombes, dans les sépultures, dans les offrandes, etc., qui montrent que les femmes avaient un pouvoir pendant ces périodes, et un pouvoir sur les hommes.
Ça, c'est pour les femmes. Et du côté des hommes, les tombes, la rupestre, la statuaire montrent quand même qu'il y a l'émergence de la figure d'un homme guerrier, ce qui n'existait pas au paléolithique.
Absolument.
Donc il y a une masculinité belliqueuse et guerrière qui se développe.
Encore une fois, ce dont je parlais, ce sont des lieux différents. On ne peut pas généraliser.
Bien sûr, parce qu'il y a énormément de cultures différentes.
Il y a énormément de cultures, il y a des périodes très différentes. C'est quand même une très longue période, 10 000 ans, c'est pas rien. Enfin, ou 8 000 ans, c'est pas rien. Et donc, on a effectivement des traces de l'émergence des armes, surtout à l'âge du bronze, à la fin du néolithique, et donc des statues où on voit des hommes donc parés de ces armes. On voit aussi dans les signes, dans l'art rupestre qu'on trouve dans les montagnes, en particulier dans les Alpes, à l'âge du bronze, on voit tous ces poignards, tous ces instruments virils en quelque sorte, qui sont matérialisés là. Mais on voit aussi très curieusement des stèles dans certains sites, dans le pourtour méditerranéen, en France en particulier, des statues menhirs qui représentent des hommes avec leur poignard, mais aussi, parfois, elles changent de sexe et elles sont transformées en femmes. Ce qui signifie que dans ces sociétés-là, au moins, les femmes pouvaient aussi être des héros ou des demi-dieux ou des personnages respectés, et on érigeait des statues à leur gloire.
Finalement, je crois que si on se questionne sur cette masculinité préhistorique, on est encore obligé d'utiliser le pluriel, c'est-à-dire de parler des masculinités préhistoriques, puisque non seulement cette période a été absolument immense par rapport à celle que nous avons connue, mais en plus il y a eu des cultures innombrables partout, et donc forcément les rapports entre les sexes n'étaient pas monolithiques, n'étaient pas les mêmes, voilà. Et il y a eu plein de masculinités préhistoriques différentes. Voilà. Peut-être que c'est ça qu'on peut dire.
Écoutez, je crois que si on arrive à cette conclusion, je trouve que c'est une bonne chose de parler de la diversité et de lire cette histoire humaine, comme l'histoire d'ailleurs des hommes d'aujourd'hui, sous le signe de cette pluralité, cette diversité.
Et de cette diversité, ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'essence masculine. Voilà. Pour terminer, j'aimerais vous poser deux questions. D'abord, rapidement, l'œuvre que vous souhaitez recommander aux auditrices de cette émission.
On parlait tout à l'heure de la violence et de l'émergence de la violence au néolithique, etc. Il y a les travaux de Jean Guilaine, qui est un très bon préhistorien, qui a écrit en particulier, il a écrit plusieurs choses là-dessus, mais il a écrit un livre en 2001 intitulé « Le sentier de la guerre ». Co-signé avec Jean Zamit, qui est un médecin paléopathologiste, donc qui étudie les blessures, etc. Donc, ils ont travaillé ensemble, justement, sur cette émergence de la violence au néolithique.
Très bien. J'ai une ultime question. C'est, j'aimerais vous demander ce que vous, Claudine Cohen, qui avez étudié les rapports entre les genres à la préhistoire, qu'est-ce que ça vous a appris des femmes et des hommes de l'époque contemporaine ?
Écoutez, moi, ce que ça m'a appris, c'est que c'est très important d'aborder ces questions de genre, bien sûr, aujourd'hui. Ce sont des questions vives, et ce sont des questions fortes, qui sont aussi des questions extrêmement polémiques. qui parfois attisent des passions, même parfois un peu inconsidérées, et aussi une grande violence parfois, parce qu'elle touche vraiment à des points très très sensibles. Et il me semble que les aborder à travers les questions que je pose, à travers les questions de la préhistoire, permet d'abord d'émousser un petit peu cette passion, hein, mais en même temps de revenir à des questions fondamentales et à des observations, à des interrogations qui évidemment sont un peu exotiques parce qu'il s'agit de sociétés très lointaines, mais qui nous parlent aussi du présent. Et donc, je crois que ce détour, pour moi, en tout cas, et aussi pour les gens avec qui j'ai pu en parler, est assez fécond.
Très bien. Mais je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Ah oui, j'ai un petit addendum. Moi, j'aimerais vraiment... vous avez remarqué qu'on a fait bien la séparation entre les hommes et les humains préhistoriques.
Oui.
Et le petit point écriture inclusive de mon côté, oui, c'est que j'aimerais vraiment, dans les livres édités, où il est question des hommes préhistoriques, qu'on dise les humains préhistoriques quand on veut parler des hommes et des femmes préhistoriques.
Alors, le code, c'est... celui que je respecte en tout cas, c'est le grand H et le petit H.
Voilà. Alors, moi, j'aime bien dire les humains pour dire les hommes.
Aux États-Unis, on interdit absolument d'utiliser man ou men pour parler de l'humanité. Alors, on trouve des détours, évidemment, humans, humanity. Mais en France, je pense que la majuscule et la minuscule, c'est pas mal pour les textes écrits. Évidemment, ça passe pas à l'oral.
Exactement. Toutes les références de cet épisode sont à retrouver sur le site de l'émission binge.audio. Vous pouvez écouter tous les épisodes précédents sur votre application de podcast préférée, ainsi que sur YouTube, Deezer et Spotify. Et moi, vous pouvez m'interpeller sur Twitter, Facebook et Instagram. Et par mail aussi à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts. Les Couilles sur la Table est un podcast produit par Binge Audio, à la prise de son et à la réalisation Quentin Bresson, à l'édition Camille Regache, et David Carzon, c'est le directeur de la rédaction. Ah, et cette fantastique musique de générique dont je ne sais pas vous, mais au bout de 33 épisodes, moi je ne suis toujours pas lassée, est signée Théo Boulanger. Merci beaucoup et à bientôt.
Binge.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.